question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre.
Bonjour, bienvenue à Question d'aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Le carême, c'est l'occasion pour Caritas Canada, Développement et Paix, qui existe depuis 1967, de faire connaître les projets qui lui tiennent à cœur. Et cette année, bien, nous en parlons parce que, bien sûr, ce sont des projets qui touchent à plusieurs aspects de la vie sociale du monde. Et pour parler de ce carême de partage, j'ai avec moi Maïalène Lavigne-Martel. Maïalène, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter l'invitation.
Ça me fait plaisir.
Maïalène, d'abord, j'aimerais savoir, Développement et Paix, Caritas Canada, à chaque année, c'est le carême de partage. D'ailleurs, pour le deuxième dimanche du carême, il y a des réflexions hebdomadaires. En fait, j'ai nommé le deuxième, mais c'est à tous les dimanches, vous avez des réflexions hebdomadaires pour le carême. Dites-moi, Maïalène, grosso modo, quels sont les projets que vous allez encourager cette année pour ce carême de partage?
Oui, donc vous l'avez dit, le carême de partage, c'est la campagne annuelle de développement et paix. Ça fait vraiment des années que ça existe. Depuis le tout premier carême en 1968, on développe une thématique et on présente nos projets. Donc cette année, ça ne fait pas exception. On a développé une nouvelle campagne qui s'appelle « Cultivons nos droits ». Donc, on s'intéresse cette année aux droits des petits paysans, petites paysannes, de la petite paysannerie aussi, qui cultivent et qui nourrissent le monde tout en prenant soin de la terre. Donc, cette année, en s'intéressant à leurs droits, on va visiter trois pays plus particulièrement. Donc, on va être au Nigeria, en Bolivie et en Indonésie avec différents partenaires.
Donc, tous ces projets, vous le dites, là, c'est vraiment pour soutenir, encourager, mieux faire connaître également la situation des paysans. Dites-moi, en grosso modo, cette situation, est-ce qu'elle va en s'améliorant ou est-ce qu'elle va en diminuant? Parce que c'est pas la première fois qu'à Développement et Paix, on nous parle de la vie des paysans dans le monde.
Oui, c'est sûr que les défis vont en grandissant. On est tous au fait qu'il y a des changements climatiques qui bouleversent notre terre. Même ici, on en est conscient. Il y a des phénomènes d'accaparement des terres. Il y a du vol des ressources. Il y a de la contamination des sols. Il y a des conflits armés qui viennent aussi perturber tout ce qui se passe dans les régions. Surtout les régions les plus appauvries sont souvent plus fortement touchées par exemple les phénomènes des changements climatiques. Donc oui, ça provoque une certaine précarité et un certain appauvrissement pour des populations qui sont déjà vulnérables. Donc, c'est là que Développement et Paix, Caritas Canada, entre en jeu avec le travail des partenaires qu'on appuie pour venir appuyer ces personnes et vraiment les aider à vivre dignement et avoir des projets qui les soutiennent, qui les nourrissent et qui les font vivre.
Maïalène, vous avez donc des projets plus spécifiques pour le carême du partage dans combien de pays?
Bon, en fait, le carême, c'est un peu une vitrine du travail qu'on fait en général. Donc, si je peux revenir un peu à Développement et Paix, Caritas Canada, nous, notre mission, c'est de venir en aide aux... en fait, on agit sur les causes profondes de la pauvreté, de l'oppression et des inégalités en travaillant avec des partenaires dans les pays du Sud. Mais on a aussi une double mission qui est aussi de mobiliser la population canadienne pour la justice et la dignité. Donc, comment ça prend forme, cette mobilisation canadienne? C'est à travers nos campagnes d'éducation, de mobilisation et de collecte de fonds. Donc, le Carême, c'est un exemple de d'une grande campagne qu'on mène qui est très excitante. Je vous encourage à visiter notre site Internet à devp.org. Vous allez voir vraiment la panoplie d'actions qu'on mène autour du Carême. Il y a plein de façons de se mobiliser puis de faire vivre le Carême dans sa région, dans son milieu, dans sa paroisse. Donc, on mobilise cette année, comme je le disais, autour de cultivons nos droits. Et pour répondre à la question, les partenaires qu'on met de l'avant, c'est des partenaires qu'on présente cette année avec qui on a travaillé, avec qui on a eu plus d'échanges. Ils nous ont fourni du matériel photo, du matériel vidéo, mais c'est vraiment emblématique parce qu'on travaille dans plusieurs pays, non seulement ceux-là. D'ailleurs, on est présent dans 34 pays. On a 73 projets de développement communautaire et d'aide humanitaire à travers le monde. On a 78 partenariats locaux en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Et le Carême de partage, c'est une façon de faire valoir, d'aller plus spécifiquement dans certains cas, certains pays, certaines situations. Donc, cette année, c'est vraiment le Nigeria. Si vous voulez, je peux vous détailler un petit peu nos partenaires dans chaque pays.
Oui, allez-y avec le Nigeria. Mais avant d'aller plus loin avec ces pays, moi, j'aimerais savoir, quand vous parlez de sensibilisation, d'éducation, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente comme défi? Parce que souvent, quand on parle de charité, d'organismes de charité, on n'est pas toujours le volet éducation n'est pas toujours présent. Hein. Il y a des organismes qui vont s'attarder davantage à juste dire ben écoutez donnez-nous puis on va s'occuper des personnes qui sont dans le besoin. Le volet ce qu'on appelle en anglais advocacy, c'est-à-dire une éducation, une sensibilisation à des changements qui deviennent vraiment urgents. Ça c'est un volet qui est plus important, j'allais dire qui est le plus important, mais qui est tout aussi important que la charité bien sûr, mais qui est plus difficile par ailleurs, non?
Oui, exactement. Donc, cette mobilisation-là, ce plaidoyer qu'on fait au Canada, c'est essentiel, en fait, parce que le changement, si on veut qu'il y ait du changement dans les pays du Sud, si on veut répondre aux causes structurelles de pauvreté, d'inégalité, il faut que le changement passe par ici, passe par nos propres structures. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on mobilise les Canadiens. À l'automne, c'est notre moment de campagne plus d'action et de mobilisation sur des enjeux de plaidoyer qui vont avoir une incidence dans les pays du Sud. Donc, cette année, si on parle de l'automne 2023. D'ailleurs, vous pouvez toujours signer notre pétition qui est en ligne si vous ne l'avez pas déjà fait. On vient à appuyer les communautés de Guapinol, qui est une région au Honduras, une région où une compagnie minière est venue s'installer dans un parc national et qui contamine leur forêt, qui contamine leur eau. Et ils sont vraiment...
Ils sont très présents comme compagnie et ça ne donne pas, en tout cas, ça peut donner de bons bénéfices dans nos poches, mais c'est malheureusement de très mauvais bénéfices pour ce qui est des gens qui habitent sur le terrain, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, exactement. Souvent,
Grosso modo, les
défenseurs de la terre et de l'environnement, ils sont souvent persécutés, voire même assassinés, si c'est pas criminalisé, emprisonné. Donc, certains sont même forcés de fuir la communauté, fuir le pays pour survivre. Alors, c'est vraiment un enjeu qui nous préoccupe et on voulait faire lumière sur ce cas particulier de Guapinol, mais en mettant... Ça se passe aussi ailleurs dans le monde, dans plusieurs pays. Donc, quand on veut mobiliser les Canadiens, c'est aussi de conscientiser par rapport à ces enjeux qui existent et d'essayer d'agir ici au Canada pour faire changer les choses. Donc, chaque signature compte, chaque petit geste que vous voulez faire, juste en parler, juste de le savoir, déjà, c'est un pas vers l'avant.
Marie-Hélène, nous allons aller à la pause. Je vais faire entendre un extrait de la campagne, donc pour le Nigeria, le vidéo. Et on va tout de suite en reparler tout de suite après.
Dans le sud du Nigeria, la pollution et la contamination causées par l'industrie pétrolière entraînent de lourdes conséquences pour les communautés appauvries.
Vous voyez cette huile? Elle a détruit tant de choses ici. Quand on essaie de cultiver quelque chose, rien ne pousse.
OMEF, le partenaire de développement épais Caritas Canada, défend les droits des agricultrices et des agriculteurs et les aide à protéger leurs terres.
La lutte des communautés paysannes et rurales au Nigeria, en particulier dans la région où se déroulent les activités de notre projet, est assez complexe. Mais elles sont toutes liées à l'impact de plus de 6 décennies d'extraction pétrolière et gazière imprudente, irréfléchie et irresponsable. Les communautés luttent donc pour leur survie.
J'ai loué une ferme dans les environs. En y allant hier, et même tout au long du mois dernier, je n'ai rien eu. Tout le manioc, quand je l'ai déraciné, rien. Quand une femme comme moi, une veuve comme moi, loue une ferme, c'est pour pouvoir manger avec mes enfants. Mais maintenant, tout est perdu. La compagnie sait ce qu'il faut faire, mais n'a rien fait. Pas de restauration du lac, rien. Et moi, j'essaie juste de nourrir ma famille.
Vous êtes toujours à l'émission Question d'aujourd'hui. Je me trouve en compagnie de Maïalène Lavigne-Martel. Elle est à Développement et Paix Caritas Canada. Elle s'occupe de faire connaître les campagnes, les différentes campagnes, bien sûr, que Caritas Canada, Développement et Paix, fait connaître et travaille avec les partenaires de projets un peu partout. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'un vidéo qui est disponible sur le site web de Développement et Paix, DEVP.org/FR, donc pour la page française. Dites-moi, Maïalène, on a entendu au début un enfant qui nous dit que les sols sont souillés par l'huile, en fait, le pétrole du Nigeria, parce qu'on sait que le pétrole est très important au Nigeria, c'est l'un des grands producteurs de pétrole dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il nous disait de plus, cet enfant?
Donc, cet enfant témoigne, ben, comme d'autres personnes des communautés aux alentours, comme quoi leurs terrains sont contaminés par l'huile. Il y a des fuites de pétrole ou quand il y a des inondations, l'huile se mêle à l'eau, arrive sur leur terrain et par la suite, le pétrole reste imbibé dans leur sol. Donc, si vous écoutez la vidéo témoignage, vous verrez trois fermiers, fermières témoigner que leurs récoltes depuis certaines années sont complètement mortes. Ils font pousser du cassava, mais quand ils déracinent, il n'y a rien. Les tubercules pourrissent à même le sol. Donc, c'est vraiment une situation déplorable puisque ces personnes-là, ben, c'est leur gagne-pain, c'est leur façon de nourrir leur famille. Mais là, ils arrivent même pas, ils ont beau louer des terres, les terres sont contaminées. Donc, c'est vraiment plutôt tragique qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et en fait, c'est notre partenaire OMEF, qui en anglais, ça veut dire Home of Mother Earth Foundation, donc en français, Fondation Santé de la Terre-Mère, qui intervient auprès de ces communautés. Donc, c'est ça, c'est pour faire un peu faire connaître toute la dévastation causée par les compagnies pétrolières dans cette région.
Oui, ben c'est ça. J'allais dire les compagnies pétrolières et les compagnies normalement, elles devraient prendre soin de faire attention à l'environnement. C'est pas ce qu'on observe finalement avec vos partenaires en tout cas de terrain. Vous disent attention, non, c'est pas ce qui arrive.
Oui, il y a plusieurs milliers de barils de pétrole qui fuient à chaque jour. Vraiment, il y a des... faudrait vraiment que notre partenaire vous en parle. Ils sont beaucoup plus informés, mais oui, il y a même un puits de pétrole qui brûle en ce moment dans l'océan depuis 2020, puis personne est là pour l'arrêter. OMEF a d'ailleurs fait un documentaire.
Au Nigeria, donc. Au Nigeria?
Oui, au Nigeria.
Il y a un puits de pétrole qui brûle depuis 2020 et personne n'en parle. Vous venez de, en fait, je viens de l'apprendre là, de vous-même.
Oui, c'est ça. OMEF a fait un documentaire disponible en anglais sur le sujet, mais vraiment les industries pétrolières, oui, comme vous dites, n'ont pas vraiment une diligence raisonnable, ce qui vient à parler d'une autre campagne qu'on a fait à Développement et Paix sur l'importance de la diligence raisonnable des compagnies, puisque elles devraient réparer les torts qu'elles causent ou opérer de façon sans causer de tort idéalement. Donc oui, ils sont pas sortis du bois encore les personnes qui sont touchées par cela au Nigeria, mais le partenaire est là sur le terrain, essaie de conscientiser, de faire valoir leurs droits et de leur donner une parole pour que ça soit connu.
Donc, on assiste souvent, justement, comme vous venez de nous l'apprendre, à la lutte des paysans, à la lutte de gens qui ont besoin de leur terre, ont besoin de l'eau pour survivre. Ce n'est pas seulement, en fait, ils n'ont pas des égouts ou bien ils n'ont pas non plus l'eau courante. Souvent, c'est on va à la rivière, on va au ruisseau le plus proche, la source d'eau la plus proche et on va chercher de l'eau. Et c'est, malheureusement, finalement, ce développement que l'on fait n'est pas toujours teinté d'une justice à côté. C'est bien ce qu'on observe, donc.
Oui, c'est sûr. Puis il y a des répercussions. Comme vous dites, si l'eau est contaminée, mais c'est toutes les personnes qui vivent de la pêche aussi, qui voient leur gagne-pain détruit. Ça se passe partout. Là où il y a de la contamination des sols ou la contamination de l'eau, les conséquences se font sentir à travers toute la chaîne d'alimentation et touchent beaucoup de communautés, oui, à travers le monde.
Dites-moi, Développement Épais, donc, depuis 1967, essaie de conscientiser les gens, essaie de faire en sorte qu'on sache mieux qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde vis-à-vis de développement et vis-à-vis de cette justice qui est nécessaire à la paix. Est-ce que, sur le terrain, quand vous rencontrez les Canadiens, les Canadiennes, vous sentez toujours une ouverture, ou bien s'il y a une certaine fatigue quand vous leur arrivez avec des sujets, est-ce que vous avez un comparatif, en tout cas par rapport à un certain moment dans le temps et aujourd'hui? Parce qu'on sent qu'il y a une certaine fatigue informationnelle qui s'installe, et souvent les gens vont nous dire « Ah ben je suis fatigué, j'en peux plus, je prends une pause des informations ».
C'est sûr qu'on est bombardé d'informations. Ça peut paraître un peu difficile de faire changer les choses. Mais nous, on croit, puis c'est en parlant à nos partenaires et quand ils viennent nous rencontrer, que vraiment chaque action compte. Puis c'est tout à mesure d'additionner tous les petits gestes qu'on peut faire qu'on va vraiment pouvoir créer du changement. Je pense que tous les Canadiens, toutes les Canadiennes sont intéressés à avoir un monde qui vit en harmonie, à ce que toutes nos sœurs et tous nos frères partout sur la Terre aient des opportunités de vie juste et équitable et égale. Donc, oui, on sent que les Canadiens et Canadiennes continuent d'appuyer nos campagnes, continuent de signer nos pétitions. Et puis, on est toujours intéressés à rejoindre plus de personnes et puis à ce que d'autres personnes se rejoignent, joignent notre mouvement. Finalement, on est un mouvement de membres à Développement Épais. C'est aussi une des particularités qui nous distingue de d'autres organisations.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, un mouvement de membres?
Alors, on est un mouvement démocratique de solidarité. Donc, on a des membres à travers le pays qui se mobilisent pour nous. Et il y a tout un système où est-ce que, avec des conseils diocésains, avec des membres, on a un conseil national. Donc, les membres, ils font partie intégrante de notre mouvement, des décisions, de notre travail. On a 12 500 membres à travers le pays. Donc, ça inclut des bénévoles qui font vivre nos campagnes. Ça inclut tous nos partageants qui sont nos donatrices et donateurs mensuels qui appuient la mission à chaque mois. Donc, tous ces gens-là sont au cœur de notre mission, sont au cœur de notre travail et on ne pourrait pas avoir l'impact qu'on a et la présence pan-canadienne qu'on a sans ces personnes qui se dévouent pour notre cause et qui font connaître nos campagnes. C'est vraiment, on est choyés, on est chanceux. Puis si vous vous êtes intéressés, on invite toute personne intéressée à visiter notre site, à se joindre au mouvement. Et le Carême, c'est vraiment une belle opportunité de se joindre à nous puisqu'il y a une multitude d'activités. Vous n'avez qu'à visiter la section ressources de notre site Internet, DEVP.org, pour voir tous les outils accessibles. On parle d'un calendrier de solidarité pendant le Carême que vous pouvez suivre à chaque jour. Vous en avez parlé au début, il y a des réflexions hebdomadaires pour chaque dimanche du Carême. Et le point culminant de notre campagne, c'est le cinquième dimanche du Carême. C'est un moment où les évêques mènent il y a une quête commandée à travers les paroisses pour notre travail, pour financer notre mission, pour venir en aide à nos partenaires et à nos projets dans les pays du Sud. Donc, c'est un dimanche qu'on est venu à appeler le dimanche de la solidarité. Et c'est vraiment un grand moment de partage qui est vital pour nous, pour notre organisation, pour nos projets, pour notre mission.
Oui, 73 projets de développement communautaire et d'aide humanitaire dans 34 pays, 78 partenariats locaux, c'est énorme, c'est vraiment du travail également d'être en contact avec tous ces gens-là. 12,8 millions investis dans des projets à l'étranger en 2022-23. Développement Épais, donc cette campagne, ce partage de Carême, dites-moi, est-ce que cultivons nos droits? On a parlé du Nigeria. J'aimerais que vous nous donniez les trois autres exemples qui font partie de votre campagne cette année, qui est vraiment une campagne axée sur la solidarité avec les paysans qui, bien, ne font pas une agriculture c'est pas commercial, là, c'est vraiment une agriculture de survivance dans plusieurs cas, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Donc, un autre pays qui est mis de l'avant, outre le Nigeria, c'est la Bolivie. Donc, en Bolivie, cette année, on travaille avec la fondation Nuna. Ce partenaire est mis de l'avant dans notre campagne. Vous pouvez toujours écouter, on a eu un lancement, en fait, le 17 février, puis Nimo Bassi du Nigeria et Eva Kolke de Bolivie étaient parmi nous pour présenter leur travail. Donc, en Bolivie, la fondation Nuna travaille avec les communautés autochtones et paysannes, et puis elle les aide à vivre de manière plus durable et à diversifier leurs revenus. Ils sont dans la région, dans les Andes, en montagne. C'est des régions plutôt sèches. Et puis, il manque d'eau. Donc, ils vont aider les communautés à faire arriver l'eau. Ils vont aider les communautés à avoir une culture agroécologique, à diversifier leur culture, à faire pousser plus de légumes, plus de variétés de fruits. Donc, il y a des paysans, des paysannes qui voient la différence, qui sont vraiment ravis d'avoir appris des nouvelles techniques. Ils ont appris à cultiver en terrasse pour éviter que le sol, il y avait beaucoup de problèmes de glissement de terrain à cause de la montagne. Il y a aussi, ils aident à construire des infrastructures comme des étames pour les vaches, pour les moutons. Donc ça aide les producteurs laitiers. Et ensuite, pour diversifier les revenus, comme il manque aussi d'opportunités de travail, plusieurs hommes et garçons quittent la région pour aller travailler. Donc ils offrent l'opportunité, par exemple, de transformer le lait, d'en créer des glaces, d'en créer des sorbets, d'en faire du fromage, du yogourt. Donc cette diversification de revenus les aide à avoir... à mieux vivre dans leur région et à rester en famille. Donc ça, c'est notre partenaire Fondation Nuna en Bolivie. Et le troisième pays qu'on met de l'avant, c'est Indonésie, avec notre partenaire Payo Payo.
Oui, c'est un projet, donc je pense, pour assurer la souveraineté des villages.
Exactement. Donc, on a un projet, c'est de ferme agriculture. Donc, dans la région là-bas, en Indonésie, il y a un problème, ils appellent la désagrarisation, où les jeunes quittent les villages parce que, bon, il manque de terre pour s'établir, mais il y a aussi une dévalorisation de ce travail-là. Donc, ça devient un travail vieillissant. Donc, Payo Payo, ce qu'ils essaient de faire, c'est de mobiliser surtout les jeunes femmes, les jeunes hommes, et à travers leur école, les jeunes vont pouvoir, pendant 4-5 mois, faire tout un cycle de récolte et apprendre des nouvelles techniques d'agriculture durable en agroécologie. Et ça développe vraiment des nouvelles passions. Et ces jeunes-là n'ont qu'un souhait, c'est que les jeunes restent dans les villages et puissent faire fructifier et bonifier la vie des villages. Donc, c'est vraiment notre partenaire travaille avec à redynamiser les villages et à garantir, parce que c'est aussi une question de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Donc, Payo Payo va les aider à vivre de ça et puis aussi à mieux gérer les ressources naturelles.
Maïalène Lavigne-Martel, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, j'entends les villages qui se dépeuplent. Au Québec, on a vécu et on vit encore dans certaines régions ce dépeuplement des villages, alors que dans les années 20, 30, 40, 50 même, on avait développé des villages, bon, d'abord pour donner des terres à des gens qui n'avaient plus rien à cause de la crise économique, mais également parce qu'on voulait occuper le territoire. J'entends qu'on vit un peu les mêmes problèmes de pays en pays. Est-ce que Développement épais a des programmes où les jeunes peuvent, ou bien des moins jeunes aussi, peuvent se rendre sur place et peut-être contribuer un peu à l'action solidaire, mais également mieux comprendre les dynamiques qui se vivent dans certains pays? Parce que on a beau comparer, les dynamiques sont souvent différentes, mais les buts ou en tout cas les problématiques se ressemblent étrangement, non?
Oui, il y avait des opportunités à Développement épais de voyager. On appelle ça des voyages de solidarité. Évidemment, avec la pandémie, un peu ces projets ont été un peu mis sur pause, mais c'est quelque chose qu'on aimerait remettre de l'avant. C'est une excellente façon pour nos membres de découvrir justement. C'est vraiment, ça change. Pour avoir été sur le terrain, ça change la perspective. On comprend une autre réalité, ça ouvre les cœurs, ça ouvre les esprits. Donc oui, c'est une merveilleuse façon de pouvoir mieux connaître la réalité de quelqu'un d'autre, mais c'est pas la principale façon. Nous, on travaille vraiment avec des partenaires locaux. Donc quand on organise ces voyages-là, c'est vraiment pour mobiliser des personnes, nos membres, pour leur faire connaître la réalité sur le terrain et notre travail de partenariat. Mais quand c'est pas possible d'aller sur le terrain, on fait aussi venir des partenaires au Canada. Donc, durant le carême, justement, les personnes qui sont dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, auront la chance de rencontrer Arnaud Batiran, qui est le directeur général de Payo Payo, justement. Et comme on est un peu loin de la Colombie-Britannique, on va offrir un webinaire national avec traduction simultanée. Donc, si vous êtes intéressé à connaître le travail de ce partenaire, de Payo Payo. D'ailleurs, si vous avez vu notre visuel de campagne, sur notre affiche, il y a une magnifique jeune fille de 5 ans. Et c'est la fille de notre partenaire, Carnot Batiran. Ah. Donc, c'est sans le savoir, on a choisi cette image et on a su par la suite que c'était sa fille. Donc, on était très touchés et très heureux de ce dénouement. Donc, vous allez...
Est-ce que le webinaire sera disponible éventuellement sur votre site web?
Oui, tout sera disponible sur notre compte YouTube et on mettra des liens là, dans notre section ressources de campagne. Vous allez retrouver toutes les vidéos en lien avec la campagne.
On a seulement une minute, Maïalène. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses dans ce monde qui, semble-t-il, fait presque du surplace hein, sur la question du développement durable. Un jour, on trouve des gouvernements dans le monde qui disent « OK, on va essayer le développement durable. » Le lendemain, pouf, on trouve une compagnie ou même un gouvernement qui encourage des compagnies qui vont aller de l'avant dans des projets qui n'ont aucun sens au niveau, par exemple, du respect de la terre, du respect des droits des paysans qui sont là. Vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez une espérance ou vous vous dites je suis un peu découragé certains jours?
c'est sûr que c'est pas toujours facile de constater l'état du monde actuellement, mais je porte d'ailleurs aujourd'hui mon chandail Nourrir l'espoir, qui est la thématique pour développement et paix des 5 prochaines années. Donc c'est vraiment, moi je pense qu'il faut continuer de nourrir l'espoir, puis il faut pas lâcher, puis il faut toujours mettre de l'avant des alternatives puis des solutions positives pour faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier d'une terre, d'un espace où grandir, comme les générations passées ont pu l'avoir. Donc, je suis toujours optimiste, je nourris l'espoir. Et oui, je pense que, comme je le disais, chaque petit geste compte.
Maïalène Lavigne-Martel, chez Développement et Paix, merci beaucoup d'être venue nous parler de la campagne de partage du carême de Développement et Paix Caritas Canada. Merci infiniment.
Ça me fait plaisir, merci à vous.
Merci. Alors, je rappelle simplement que le site web, c'est devp.org/fr. Et dès l'instant où vous arrivez sur la page d'accueil, eh bien, vous avez toutes les informations. Vous pouvez aller sur le site, donc, de la campagne de Carême. Merci beaucoup à Daniel Fortin. Merci à Yannick Caron. Merci à la Fondation Lucien Labelle qui nous aide à réaliser cette émission. Ici Mario Barre. Je vous dis à bientôt.